Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Toutes nos émissions sont disponibles en balado via laplumedefeu.com. Aube, épisode 21.
Changer le monde.
Guillaume, t'es encore en train de rêver, toi, là.
Ben non, Phil. Depuis que je suis né, il y a tellement de choses qui ont changé.
Ah ouais? Pour le meilleur?
Mais hein? Check, je vais même te faire une émission de radio avec ça.
Dans ce 21e épisode, on veut vous parler des acteurs de changement. De vous, puis bien sûr de nous.
Bref, de tous ceux qui, au quotidien, tentent de faire avancer les choses.
Au sommaire, une entrevue avec Stephen Guilbeault, membre fondateur d'Équiterre.
La toxicomanie de l'argent et du pouvoir.
Bilan d'époque en mouvement, un texte signé Annie Schneider.
Et un cours radio-théâtre tiré du jeu de rôle Rétro-Futur.
On te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives. De prendre action simplement par une prise de conscience.
Le mot-clé, changement. Au village, il y a un petit café au coin de la principale puis la première rue. J'aime ça aller au café le samedi. C'est ma petite routine. J'arrive puis je dis bonjour à Alice qui me prépare mon latte. Je croise les habitués. Monsieur le directeur assis devant son journal. Sonia puis son bébé Jacob qui boit un chocolat chaud dans sa poussette. Sophie qui étudie. Simon qui a jamais le temps pour plus qu'un expresso. Et Paul et Andrew, assis au fond, qui poursuivent leur interminable partie d'échecs. Comme d'habitude, je m'installe sur le comptoir en bois d'érable, près de la fenêtre. Je m'assois puis je regarde dehors. Je regarde le monde changer. Les feuilles de l'arbre en face sont encore toutes vertes, mais celles au parc sont en train de prendre des couleurs. Mes préférées, c'est les jaunes. Le fruitier a changé les melons pour des citrouilles. Les passants ont sorti leurs beaux manteaux. Sylvie s'est fait couper les cheveux. Ça lui va bien, court, je trouve. Michel passe en vélo avec sa fille Geneviève. Me semble qu'il y a encore pas si longtemps, il l'avait d'un bras. Mais aujourd'hui, elle pédale à côté de lui, sans les petits trous. La fleur qui pousse encore dans les craques du trottoir, on dirait qu'elle a encore grandi. L'écureuil au parc, lui, a grossi, c'est certain. Sur le mur de l'école, il y a quelqu'un qui a écrit une nouvelle poésie. Regarder par la fenêtre, c'est comme regarder la TV. Mais moins prévisible. Ça se passe moins vite qu'on est habitué à la télévision, mais il se passe toujours quelque chose. L'autre coup, j'ai vu des parents au coin de l'école faire signer une pétition. Quelques jours plus tard, il y a un inspecteur avec son chapeau qui est passé par là. Peu après, ils ont creusé un trou. Puis aujourd'hui, il y a un banc avec un petit alu rempli de fleurs, puis un stop au coin de la rue. Dans la ruelle où je sens fumer, les enfants ont sorti les buts de hockey. Depuis qu'ils ont remplacé les poubelles par des plantes, l'odeur est disparue. Ça sent les feuilles mortes. À l'intérieur, Sylvain écrit pour son blog. Le rythme régulier de ses doigts sur son clavier laisse deviner qu'il y a une grosse nouvelle qui pourrait tout changer. Sylvain écrit toujours comme si tout avait changé. Il y a Jules, le travailleur de rue, qui discute avec Alexandre, qui parle de peut-être retourner au cégep. Caroline vient de mettre des affiches pour son nouveau spectacle sur le babillard communautaire. Moi, je feuillette le journal. Comme les feuilles des arbres, les couleurs des pages sont changeantes. Ça passe du carré rouge au bloc bleu, un voile noir, un mariage en blanc, des cônes orange. Récemment, je vois apparaître de plus en plus de verre. C'est difficile de dire ce qui change au quotidien. C'est comme pour les feuilles des arbres au parc. On dirait que ça change tout d'un coup. Mais on sait bien que ça s'est passé tranquillement, une feuille à la fois. Tranquillement, l'arbre laisse ses anciennes feuilles mourir. Puis soudainement, un grand vent se lève qui emporte les feuilles au loin. On dirait tout d'un coup, mais on le sait dans le fond que le changement s'était préparé depuis longtemps.
Pour notre émission portant sur les acteurs de changement, nous avons la chance d'être en présence de Steven Guilbeault, membre fondateur et directeur principal d'Équiterre qui s'intéresse aux questions environnementales et particulièrement au dossier des changements climatiques. Bonjour, Monsieur Guilbeault.
Bonjour.
Alors, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de comment tout ça, ça a commencé.
Je viens d'une petite ville en Mauricie qui s'appelle La Tuque. Et quand j'étais petit, derrière la cour, c'était la forêt. Ça a été mon terrain de jeu pendant des années, jusqu'à ce que des développeurs viennent pour couper cette forêt-là, pour faire un nouveau développement immobilier. Là, je suis entré dans la maison un peu en état de panique. Puis ma mère a dit, puis elle n'est pas militante pour deux scènes, mais elle a dit, si tu grimpes dans un arbre, celui-là, ils ne pourront pas le couper. Alors, j'avais 5 ans, je jouais dans la forêt à longueur de journée. Grimper dans un arbre, c'était mon pain puis mon beurre. Alors, j'ai fait comme ma mère m'a dit. Je suis monté, je suis resté là toute la journée. Je ne pouvais pas venir me chercher, c'était trop compliqué, c'était trop dangereux. Alors, cette journée-là, cet arbre-là, ils ne l'ont pas coupé. Ça m'a pris des années à réaliser que cet événement-là a eu beaucoup d'impact sur ma vie. C'était une prise de conscience, mais qu'on ne réalise pas à 5 ans, on ne réalise pas à 10. Peut-être à 15, 16, on commence à prendre conscience. Donc, autour des années 92, je rencontre des gens avec qui, plus tard, on va fonder Équiterre. Sidney Ribault, qui en est maintenant directeur général. François Meloche, qui est aujourd'hui un expert québécois en matière d'investissement éthique. Patrick Henn, qui travaille dans l'éolien. Laure Varidel, évidemment. Donc, plein de gens comme ça avec qui on a beaucoup d'atomes crochus, puis on veut changer le monde. On est des jeunes universitaires. On est plein d'espoir, plein d'énergie. Alors, on décide de créer Équiterre.
Est-ce que vous voulez me parler un peu de cette époque-là? Comment ça se passait au niveau politique, environnemental, pour avoir une petite idée? Dans quel contexte, en fait, Équiterre est né?
Bien, on est... Équiterre, on est un peu des enfants du sommet de Rio de 1992. Donc, qui était à l'époque la plus grande conférence en environnement qu'il y avait jamais eu. Il y avait des chefs d'État à une conférence sur l'environnement. Ça ne s'était jamais vu. Et c'est à Rio qu'il y a plusieurs grandes ententes internationales qui sont signées. Celle pour la protection de la biodiversité, celle pour contrer la désertification et celle sur les changements climatiques. Et rapidement, chez Équiterre, au début, la question des changements climatiques va devenir pour nous un enjeu prioritaire. Mais à l'époque, on ne parlait jamais autant de changements climatiques qu'on en parle aujourd'hui. Et le consensus scientifique n'était pas là. Alors, quand nous, on parlait de changements climatiques, à l'époque, on passait pour des extraterrestres. Il y avait déjà des études, il y avait déjà plusieurs scientifiques qui avaient sonné l'alarme, mais c'est vraiment en 1995 que le groupe de scientifiques des Nations Unies publie un premier rapport où là, la communauté scientifique internationale dit « il y a un réchauffement, c'est largement dû à l'activité humaine ». Et là, maintenant, je veux dire, c'est acquis, là. Il y a à peu près plus de débat sur le fait scientifique du réchauffement planétaire. Il y a les négationnistes du climat, là, qu'on entend, entre autres, qui sévissent dans les radios poubelles. Mais c'est très marginal. La classe politique sur la question des changements climatiques, il n'y a pas de débat sur est-ce qu'on doit le faire. Il y a des débats sur la façon puis les mécanismes, mais pas sur l'importance d'agir. Alors, je pense qu'il va falloir être vigilant. Je pense qu'il va falloir demeurer mobilisé. Quand on regarde les grands mouvements sociaux, Martin Luther King, Malcolm X, ce qui s'est passé en Inde avec Gandhi, il y a parfois des grands moments, il y a parfois des grandes personnalités qui vont émerger. Mais ces changements-là, c'est le fait de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes qui vont poser des petits gestes. Puis, devant des grands problèmes sociaux ou environnementaux, on peut dire, mon Dieu, un petit geste, ça donne quoi? Mais il ne faut jamais perdre de vue que vous n'êtes jamais seul à le faire. On voit présentement une prise de conscience puis une mobilisation planétaire. Alors peut-être que ça peut avoir l'air un petit peu insignifiant à l'échelle d'un individu, d'une personne, mais ces petits gestes-là, reproduits des centaines de milliers, voire des millions de fois, ça finit par devenir une force politique. Beaucoup plus que les grandes conférences internationales comme celle qui s'en vient à Paris, celle de Kyoto, qui ont leur importance. J'ai participé à ces conférences-là. Je serai à Paris au mois de décembre. Mais ce qui fait que la planète avance dans le cadre de la lutte au changement climatique, c'est la mobilisation, c'est les gens dans leur communauté, dans leur ville, dans leur province, qui ont amené, qui ont convaincu leurs élus à agir, qui ont convaincu des entreprises à faire mieux. C'est très, très, très important.
Est-ce que vous avez un mot de la fin?
Je suis plutôt optimiste quant à la suite des choses. Pas un optimiste gaga, lunettes roses, tout va bien aller. Certains optimistes réalistes, je dirais, dans la mesure où, comme je le disais, il y a une mobilisation fantastique. Moi, je suis beaucoup plus optimiste aujourd'hui que je l'étais il y a 10 ans ou il y a 20 ans quand on a commencé à travailler là-dessus, puis qu'on ramait à contre-courant tout le temps, puis qu'il n'y a à peu près personne qui croyait à ce qu'on disait. Alors que là, maintenant, il y a une marche qui est donnée, il y a un sens, il y a une action mondiale. Bloomberg publie un rapport au mois de mars qui montre que d'ici 2030, on va investir la moitié de l'argent qu'on investit dans les combustibles fossiles par rapport à aujourd'hui et deux fois plus dans les énergies renouvelables. Le monde des transports est en train de changer. Comment on fait nos bâtiments? Vous êtes ici, CIBL, dans un bâtiment très moderne, très efficace. Nous le sommes, nous aussi, juste à côté, dans la Maison du développement durable. On a voulu faire ces bâtiments-là pour montrer à tout le monde, à nos élus, aux constructeurs, aux ingénieurs, aux architectes, aux gestionnaires d'immeubles, qu'on pouvait faire beaucoup mieux et ça marche. Et je pense que toutes ces initiatives-là, elles vont avoir un effet de contamination et on va vivre des transformations vraiment intéressantes et vraiment positives. Parallèlement à ça, par contre, et c'est là le volet réalisme de mon optimisme, nous sommes déjà entrés dans l'ère des changements climatiques. Il y a déjà des impacts, il y a des gens qui souffrent, il y en a encore d'autres qui vont souffrir. Hélas, avant d'aller mieux en matière de lutte au changement climatique, avant que le climat se remette de ce qu'on lui a fait subir, ça va prendre du temps. Et plus on agit rapidement pour contrer ça, plus on va pouvoir régler rapidement ce problème-là, moins on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, une planète en mauvaise santé. Alors, je crois fondamentalement qu'on peut y arriver, mais il va falloir continuer à travailler. Mais si on le fait tout le monde ensemble, je suis convaincu qu'on va y arriver.
Nous vivons à une époque formidable, dans un pays somme toute très vivable. Malgré les longs mois de froid, le culte de l'individualité et TVA, nous tirons malgré tout, pour l'instant encore, nos épingles colorées de ce jeu très truqué. Effectivement, vous comme moi sommes des êtres sensibles et atypiques qui rarement fitent dans le décor ambiant. Miroirs aux alouettes et pièges placés ça et là, exilés dans ce pays, voire dans ce monde, nous nous questionnons sur notre finalité profonde, chaque jour, souvent et à juste raison. Mais pourquoi les gens courent tellement pour accumuler de la matière, des maisons, de grosses autos, pour s'endetter encore plus, du pouvoir, de l'argent et tenter plus d'avoir? Ne savent-ils pas que tout est éphémère, que seul compte la magie de l'instant ou de nourrir ce qui est vraiment vivant, animaux, plantes et surtout les personnes aimantes, les enfants aux aînés qui nous ont engendrés? Dire que les Africains parrainent désormais les enfants riches d'ici, manquant tant de chaleur et de présence humaine, de temps au ralenti et de modèles inspirants, leurs parents se prostituant avant tout pour l'argent, et qui ne l'a jamais fait pour la simple survie, mais pas pour accumuler des actions, des condos, des camions ou des REER à foison. Ils souffrent aussi, bien sûr, mais pensent jouir un jour comme jamais, alors qu'ils seront trop vieux et malades pour le faire. Ils n'entendent même plus leurs propres rejetons révoltés dans la rue, crier « Je veux pas de ça, j'en veux plus, j'en peux plus !» Moi non plus, je comprends rien ou si peu à ce monde trop bruyant, trop rapide, trop carré, pas assez rouge, mais si gris, si tourmenté. Je sais seulement qu'une prairie fleurie ou une forêt ancienne seront toujours des sources d'enchantement plus sûres. Que la plupart des enfants, les plantes, les animaux sont magnifiques, bénéfiques et bienveillants. Et que c'est bon de recevoir le sourire d'un voisin attentionné qui prend le temps d'échanger. Et surtout, qu'une vie sans amour, c'est pas une vie. Je sais aussi que la terre est en détresse. Gaz des minéraux fossiles brûlés, transport cause en tête et qu'on la malmène comme jamais, surtout depuis 2 siècles, que la plupart des êtres humains sont en manque de tout, même d'eau claire, d'air et de riz, car une minorité trop vorace, surtout des Occidentaux issus de la masse limace, reste placide par peur, par ignorance ou par manque de sagesse, ne voyant pas qu'ils nourrissent le monstre qui va les étouffer. travaille, consomme, puis ferme ta gueule. Pendant ce temps, la machine insatiable dévore sans cesse toute la matière possible en recrachant ses emballages chargés dans d'énormes camions roulant constamment, sans faillir jusqu'au port qui les renvoie en Asie, s'ils n'exposent pas au port faisant 1000 morts, comme il y a peu de temps, d'où ils reviennent bourrés de cochonneries inutiles. Ah, Saint-Dollar-Amarde, comble-nous encore de bébelles à une pièce qui continuent à souiller nos corps et nos terres. Avec ça, les Chinois, imminents dominants, achèteront, outre la plupart des dépanneurs, une maison à Montréal et ailleurs, à raber nos terres encore cultivables. Et pire, tous vivants à crédit, nous leur serons redevables, si ce n'est aux puissantes banques, la mondiale en tête. Cycle très vicieux jusqu'à ce que ce rouage infernal craque à grand fracas. Alors nous retournerons d'où nous venons, tranquillement, à pied, soit au bois un peu massacré mais toujours sacré, ou au ciel d'où nous venons sans doute en vol libre. En attendant, si faibles et isolés que nous soyons, changeons ce que nous pouvons là où nous vivons, tous dans la même ronde mais tous responsables de ce monde. À l'image de cette folie, un peu la nôtre aussi, ce tourbillon, karma, gêne et libre arbitre entrelacés au cœur de nos cellules. Mais si on fait l'effort, qu'on garde la forme, qu'on serre la force de vie entre l'amour et la mort, la marche s'amorce et continue. Ainsi, dirigeons consciemment notre véhicule, notre parcours unique, notre route à nous, nos voies, nos lois et nos pas. En toute liberté, chacun seul face à soi, changeons, car demain c'est maintenant. Ainsi tout s'accomplira à merveille, au rythme de la danse des sphères. Et maintenant le cap tout droit vers la lumière. Courage, et nous serons là à l'aube nouvelle. Merci de rester vigilant et d'œuvrer pour tout ce qui est vraiment vivant. Merci.
C'était un texte de Danny Schneider du nom de « Bilan d'époque en mouvement ».
Thank you. Mode. Congruence, acclimatation, liaison et implicite. L'individu est soumis à des milliards de sollicitations, toutes plus différentes les unes que les autres. Entre ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il perçoit et souhaite percevoir, il est perdu au tréfonds de son âme, de la métaphysique de son temps et de la pensée des autres. Comment alors lui souhaiter un mode de vie ? Alors que tout ce qu'est un mode de vie n'est qu'une réponse soudaine ou lente à des forces que l'on subit. Le sujet actuel réagit en rejet ou acceptation du système dans lequel il évolue, sans se rendre compte qu'il entre lui-même dans le système du rejet ou de la soumission. Mais bon, après tout, qu'est-ce que l'homme, si ce n'est le moteur des systèmes depuis que le monde est monde et que l'homme est une bête ? J'ai rêvé hier. C'était en matinée, lorsque notre esprit se lève lentement en même temps que notre corps, dans ces rares cas où ils font tous les deux unité pour qu'une belle journée se présente dans toute son efficacité. Je rêvais d'une suite à la pensée de Lietz, à la pensée de Machiavel, d'un homme hors des systèmes, qui comprendrait que la plus grande force qu'il puisse tirer du monde est un rejet profond de ce qu'il croit être sa nature. Qui n'a jamais cherché l'aboutissement ? La pierre de touche d'une pensée et un cercle propre et net dans sa vie, où tout marcherait finalement une fois pour toutes, comme il l'espérait. Ceci est la nature de l'homme, et plus profondément de la raison humaine. Mais le monde et l'esprit ne sont pas établis sur les talons de cette même pensée. Ce sont de multiples détours et virages qui s'accentuent et diminuent sous l'orage terrible de la vie et des autres. Le mode de vie ne serait que l'illusion simple d'un système de vie, une recette miracle pour les siècles et les siècles pour l'ensemble d'une existence. Je refuse totalement cela. L'homme s'accroche au système par faiblesse, alors qu'il pourrait tellement, d'un simple pas, évoluer entre eux afin de devenir un homme qui marche loin au-dessus des obstacles. Pour comprendre enfin que les reliefs invectivants de sa vie ne sont pas des barrières mais les murs de l'immense labyrinthe de sa pensée, de sa vie et de tout lié sous le couvert sacré de la conscience.
Tout d'abord, il y a la grisaille. Grisaille des bureaux, grisaille des vestons, grisaille des visages aux regards fuyants, grisaille des pensées bétonnées. Sous la surveillance indéfectible de petits chefs à l'affût de la moindre faute, la piétaille des fonctions rature, tamponne, agrafe, duplique, tout ce que les agences engendrent comme paperasse. C'est une vaste plaine de boxes vitrées, un échiquier aux cases étroites, sans roi ni fou. Seulement peuplé de pions. Des pions par milliers, que d'étranges caprices bureaucratiques déplacent parfois d'un box à l'autre, avec leur mine grise, leur fourniture, leur dossier et leur misère quotidienne. Au-dessus d'eux brille la lumière froide d'un firmament de néon. Les horloges sont absentes des murs et le port d'une montre y est fortement déconseillé. Dans les vestiaires, de petites boîtes cadenassées permettent que de les déposer en toute sécurité. Ici, il n'y a qu'une heure, celle du travail, dit un écriteau dans chaque box. Un carillon aigre jouant les deux premières mesures de la truite de Schubert est le seul repère temporel rythmant la journée des fonctions. Tous les 30 box est installé un espace de décontraction, soit une banquette, un distributeur d'eau et une grande photo d'un panorama idyllique qui existe en 6 modèles. Les agents de rang supérieur ont le droit à une machine à café, une fresque exofuturiste du maestro Russolo et la presse de la veille en libre consultation. Bien sûr, la jouissance des espaces de décontraction est réglementée. Il n'est de toute façon pas de bon ton d'y traîner trop longtemps. Ce fut dans l'un de ces espaces de décontraction, au 4e étage du bureau Alte Parisien de l'Agence des Archives, que la première étincelle du réseau Whisper s'alluma, il y a de cela 5 ans. L'habitude avait été prise de parler des sujets délicats en chuchotant le plus bas possible pour échapper aux oreilles inquisitrices des chefs de service. Les rumeurs de cas de désobéissance au plus haut niveau de la bureaucratie s'étaient répandues parmi les fonctions et alimentaient les conversations feutrées. Victor Justin était de ceux qui prêtaient une oreille attentive à ces rumeurs. Il était né en 1890 au Havre. D'abord marin-pêcheur, puis docker, il avait fini sans travail à Paris,
sans qualification, voué à la clochardisation, Victor Justin avait pris le chemin de l'un de ces nombreux centres de recrutement dont l'enseigne clamait « Tous ensemble pour forger l'avenir ». Ainsi, cet homme, à la silhouette de boxeur, au visage tanné par les embruns, à peine alphabétisé, s'était retrouvé promu agent de reliage aux archives, tâche qui consistait à manier la graffeuse 10 heures par jour. À l'âge de 57 ans, après 20 années de service, seul, sans épouse, sans enfant, sans amis, Victor Justin décida de se donner la mort. Face à des collègues médusés, il s'ouvrit la gorge avec le bord terriblement tranchant d'une feuille de papier hyper carboné. Sauvé in extremis, Victor Justin perdit l'usage de ses cordes vocales. Il était si rare qu'il eut à s'en servir que cet handicap le laissa indifférent. Il reprit son travail, anéanti. À la même époque, le directoire de l'agence, prise d'une frénésie paranoïaque, fit installer des microphones dans les espaces de décontraction pour épier les conversations, même celles chuchotées d'une oreille à l'autre. Le mutisme de Victor Justin inspira ses collègues et l'on se mit à pratiquer la mucitation qui consiste à articuler les mots sans émettre de son. Cette pratique se répandit parmi les fonctions. Certains devenaient suffisamment habiles pour lire couramment sur les lèvres. La première cellule de Whisper se constitua autour de Victor Justin et de ce mode de communication discrète. Il s'agissait au départ de discuter de problèmes internes, de railler les petits chefs et parfois d'organiser des représailles anonymes plutôt bon enfant contre les plus hargneux. Jusqu'au jour où un agent de contrôle de la productivité se mit à sévir de manière particulièrement abjecte. Ces harcèlements visant en priorité les fonctions de sexe féminin le conduisirent à la pratique irrépressible du viol. Après le suicide d'une jeune secrétaire, humiliée et salie par cet agent pendant plusieurs mois, Victor Justin fut décidé à passer à des représailles plus radicales. Un matin, la tête de son petit chef fut retrouvée, flottant dans la bonbonne d'un distributeur d'eau. Une enquête fut aussitôt diligentée. Elle conclut à la culpabilité de Victor Justin qui ne se défendit pas. Sans doute, son sacrifice se sauva de la guillotine nombre de ses camarades. Lui ne finit pas de la sorte. Il ne survécut pas aux interrogatoires. La cellule qui allait donner naissance au réseau Whisper était solidement forgée. Puisqu'aucun moyen de communication longue distance n'est sûr, puisque tout peut être écouté, piraté, détourné, que ce soit les ondes radio, le téléphone, le photofluide ou le pneumatique, le meilleur médium est encore la parole. Par l'usage de la parole silencieuse, Whisper a poussé cette logique au plus haut degré de sécurité. Ses membres, qui constituent autant de relais humains à l'échelle du monde, sont devenus le moyen de communication privilégié de l'armée des ombres. Le réseau Whisper fait donc circuler l'information sous forme d'échanges verbaux silencieux. Le second atout du réseau est sa culture de la discrétion. Grâce à ce réseau local, de nombreux agents europolitains exfiltrés ont retrouvé une place dans l'administration interzonienne d'où ils peuvent continuer à œuvrer pour la résistance. Ce texte est tiré de Rétrofutur, un supplément intitulé « Les dossiers de la résistance, le réseau Whisper ». Toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Plus tôt en début d'émission, nous avons entendu une entrevue avec Stephen Gilbo, membre fondateur d'Equiterre.
Bilan d'époque en mouvement.
L'apostrophe de M. Tubercil, un texte de Jean-Baptiste Gardarin.
Et la musique de Paul Carniello avec Jim Corcoran, qui va changer le monde.
Si vous avez manqué la première partie, toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com.
À venir dans la deuxième partie, la toxicomanie de l'argent et du pouvoir.
Les acteurs de l'altermondialisation, Aube comme une façon de s'impliquer.
Sans oublier la musique d'Alpha Rococo, plus ça change.
Et pour l'instant, voici les nouvelles du front.
Hey, hey, yes, God.
Les changements peuvent nous apparaître comme quelque chose de soudain et nous prendre par surprise. Pourtant, ils ont bien souvent été préparés depuis longtemps, et ce que nous pensons voir apparaître n'est en fait que la manifestation visible d'un mouvement de fond qui se poursuit. Si l'on peut voir prendre forme des nouvelles solutions, si l'on découvre sans cesse de nouvelles choses et si des nouvelles idées émergent, c'est que le combat a lieu chaque jour pour faire avancer les choses. Ici Guillaume Lambe et voici les nouvelles du front. En France, le mouvement pour une agriculture plus respectueuse prend de l'ampleur. En effet, de plus en plus d'agriculteurs choisissent le bio. Pourtant, l'offre ne répond toujours pas à la demande pour les légumes sains, qui elle aussi s'accroît de jour en jour. Les agriculteurs peuvent donc compter sur des marchés stables et rémunérateurs, ce qui n'est plus le cas pour l'agriculture industrielle dite traditionnelle. Comme pour l'agriculture bio, c'est un réel mouvement grassroots que l'on observe présentement se déployer aux États-Unis. Le fort appui au candidat socialiste Bernie Sanders lors des primaires démocrates en est la manifestation la plus visible, mais de nombreux citoyens américains travaillent actuellement à changer la culture politique et à se réapproprier le débat, qui appartient pour l'instant toujours aux millionnaires capables de financer des campagnes de plus en plus coûteuses. Au Québec, des milliers de Québécois ont répondu à l'appel initié en 2014 par Gabriel Nadeau-Dubois afin de soutenir le financement de la campagne « Coule pas chez nous », qui s'oppose à la construction de pipelines pour transporter le pétrole à travers la province. On rappelle qu'un pipeline est une infrastructure qu'on bâtit normalement pour longtemps, alors que la consommation d'énergie polluante doit diminuer rapidement. Coule pas chez nous est le reflet de la mobilisation des communautés de partout qui cherchent à protéger leur territoire par tous les moyens et à forcer un changement de comportement dans la consommation d'énergie. Quant à lui, le site web luttecommune.info essaie de rassembler les groupes qui luttent contre les mesures d'austérité depuis longtemps au Québec. Ces groupes cherchent à faire changer les politiques qui sont mises en place comme partout ailleurs dans le monde depuis les années 80. L'initiative luttecommune.info vise à renforcer les liens de solidarité entre les milieux, à promouvoir les initiatives à la base et à mettre de l'avant des moyens d'action, dans le but d'influencer les choix politiques, mais aussi les mentalités, qui, on le sait, peuvent être lentes à changer. Dans un rayon d'action plus local, c'est parfois possible de constater des changements plus rapidement. C'est le cas du quartier du Plateau Mont-Royal, qui est maintenant cité en exemple partout dans le monde pour ses politiques. Ces changements ne sauraient plaire à tout le monde et ont évidemment créé une résistance. Mais ils plaisent aussi à beaucoup. La page Facebook « Association des citoyens contents du Plateau Mont-Royal » a recueilli plus de 1000 sympathisants en 2 semaines. Pour faire avancer les enjeux politiques qui leur tiennent à cœur, des citoyens travaillent chaque jour avec acharnement. On ne peut passer sous silence les difficultés qu'ils rencontrent et on ne pourrait leur en vouloir s'ils décidaient d'abandonner. Pourtant, ils continuent à lutter. Et il n'en revient qu'à nous, à porter attention aux diverses manifestations de leur lutte. Pour Aube, c'était Guillaume Lambe avec les nouvelles du front.
Pour moi, il y a bien sûr le cynisme, mais il y a aussi des gens qui, essentiellement, se mettent dans une position où ils disent « ce n'est plus mon problème, donc je ne vais pas m'en mêler ». Donc c'est des gens qui occupent, disons, une position de surplomb, un peu comme s'ils étaient sur le nuage, et du coup, eux se croient, disons, immaculés. Alors qu'en réalité, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils sont exactement dans le même endroit où nous sommes, dans la même situation que la nôtre. Seulement, ils se donnent l'excuse de ne pas y être, mais c'est une vue de l'esprit. L'autre chose, c'est celui de la responsabilisation. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as conscience de ce pouvoir, alors comment tu l'utilises? Et c'est là où va jouer vraiment un rôle essentiel le débat public. Et par s'investir dans le débat public, vous savez, j'ai une conception très large de ce que peut signifier, disons, cette activité. Je ne demande pas à tout le monde de s'investir à fond dans le militantisme, par exemple. Mais ça peut simplement vouloir dire aller chercher plusieurs informations. Ça peut simplement vouloir dire cesser de lire uniquement les chroniques d'opinion, puis aller voir aussi du côté des faits, lorsqu'ils sont disponibles, parce que ce n'est pas toujours le cas. Ça peut vouloir dire confronter ses intuitions avec d'autres personnes, afin de vérifier si ce qu'on pense a une certaine résonance. Est-ce que ce que je pense, c'est simplement une opinion, et puis après je dis, bon ben voilà, c'est mon opinion, tout le monde a droit à son opinion, ou est-ce que je suis prêt à présenter une idée de manière telle à ce que quelqu'un puisse l'infirmer ? C'est-à-dire quelqu'un pourrait arriver et me dire, d'accord, tu dis X, mais peut-être Y. D'accord ? Et pour moi, le débat public, en gros, ça devrait ressembler à un débat d'hypothèses. C'est-à-dire, on avance des hypothèses, puis ensuite, on vérifie. Et il est possible qu'on tienne mordicus à son hypothèse, parce qu'on considère que c'est la meilleure formule, mais on n'y croit pas de la même manière que, disons, une conviction religieuse.
Merci à Christian Nadeau, professeur de philosophie à l'Université de Montréal. Monsieur Nadeau est aussi impliqué comme président de la Ligue des droits et libertés du Québec et participe quotidiennement au débat public. Vous trouverez toutes sortes de façons de vous impliquer vous aussi au ligue-des-droits-qc.org.
Aurélie, trouves-tu que les causes qui sollicitent notre activisme se multiplient d'année en année? Fini le temps idéalisé du métro-boulot-dodo, les engagements et les pétitions se multiplient d'ailleurs de manière exponentielle depuis l'avènement des réseaux sociaux.
Bah oui, qu'on lutte pour l'agriculture paysanne, l'écologie, qu'on essaie de protéger les rivières, les forêts, l'air ou les droits, bah à la base, on a l'impression qu'on est toujours aux prises avec quelqu'un qui a pour objectif de maximiser le profit et qui en plus a la capacité de s'attacher les services d'une série de politiciens, d'avocats et de fonctionnaires qui partagent bien les mêmes œillères comme il faut.
Bref, on a l'impression d'avoir affaire à une dépendance à l'argent et au pouvoir qui conférerait même à la toxicomanie.
Ouais, on peut même penser au super film documentaire The Corporation, écrit par Joël Bacan et réalisé par Marc Archbar. Rappelons que dans le film, justement, la corporation, qui est considérée par la loi comme une personne morale, possède les mêmes droits que les personnes physiques. Mais on oublie tellement souvent qu'elle devrait en avoir les mêmes responsabilités et les mêmes comportements sociaux.
Hélas, lorsqu'on applique les critères d'évaluation de l'OMS aux corporations, la conclusion est que la personne morale a un comportement pathologique, que l'on pourrait même comparer à celui d'un psychopathe et qui se traduit par une indifférence, une irresponsabilité, une absence de culpabilité et des comportements asociaux avec autrui.
Plusieurs écrivains abondent même dans le sens que le comportement des élites est pathologique. Joël Bacan trouvera un écho de la part de Linda McQuaig dans son livre « All You Can Eat, Greed, Lust and the New Capitalism ».
David Suzuki a aussi parlé davantage du comportement psychopathe dans le monde des affaires dans une émission de « The Nature of Things » qui portait sur le sujet.
Ouais, bah oui, combien de fois on a entendu des hommes d'affaires qui nous disaient « Eh bien, en affaires, on n'a pas de considération sentimentale, il n'y a pas d'effectif en affaires. »
Actuellement, de plus en plus, les grosses corporations internationales agissent pour obtenir la marge maximale de profit aux dépens des sociétés dans lesquelles elles sont implantées et sans faire grand cas des enjeux environnementaux futurs.
Quelle vision de courte mèche! Les entreprises qui étaient autrefois soumises aux lois étatiques s'affranchissent désormais de ces anciens garde-fous.
Évasion fiscale, large diffusion d'OGM, sans enquête à long terme, destruction des modes d'organisation traditionnels, exploitation à court terme des ressources et parfois même esclavage.
Et la question qu'on se pose donc, c'est comment réagir? Eh bien, on peut tout d'abord commencer par reconnaître leur pathologie plutôt que leur autorité. Mais faut surtout pas cultiver la haine envers ceux qui présentent les pires symptômes. Ils réussissent parce que la maladie, eh bien, elle est aussi en chacun de nous.
C'est intéressant ça, parce que c'est vrai que l'égoïsme, la difficulté à communiquer, aller vers l'autre, ça demande tellement d'efforts. La partie difficile est que le changement doit commencer et continuer par nous-mêmes.
Philip Stetter, dans son livre « Greed Addiction », compare d'ailleurs la cupidité compulsive à la consommation de drogue ou d'alcool. Un toxicomane, eh bien oui, il réagit à une souffrance ou à un manque. Alors soit on essaie d'anesthésier cette souffrance par l'alcool et les autres substances, soit on essaie de compenser le manque.
Qui n'a jamais essayé de se valoriser au travers d'une position de prestige, de grande responsabilité ou même de pouvoir?
Ou encore la possession d'objets de luxe à travers l'apparence ou même d'un symbole qui confère un statut?
Ça peut commencer quand on est très jeune, à l'adolescence, lorsque la possession d'objets permet de faire partie d'un groupe.
Il s'agit d'une erreur culturelle transmise par les motivations commerciales. Et oui, l'obsession d'avoir l'air cool, important, indique une carence d'estime de soi. Cette estime de soi devrait tellement être acquise au travers de l'échange, de l'acquisition, du savoir, bref, au travers d'un processus qui viserait plutôt à remplir plutôt qu'à couvrir.
Ça fait penser à Alert Bay sur la côte ouest, sur l'île d'Ulish, qui a été transformée par des ateliers d'une nature particulière centrée autour de l'encouragement, de la solidarité, de l'estime de soi. Une petite promenade sur cette île de culture, d'art, de beauté, de musique, d'activité et de PME prospère montre à quelle vitesse les changements peuvent opérer une fois qu'on a changé d'attitude et de vision.
John Goffman est un physicien qui avait fini par suivre sa conscience plutôt que le prestige et le salaire qui allaient avec le développement du nucléaire et des armes associées.
Ça me rappelle dans son livre « Ivory, a Never-Evident Look at the Nuclear Industry » qu'il émettait le postulat de l'insécurité chronique qui pousse les leaders mondiaux vers des spirales grandissantes de crimes contre l'humanité.
Mais en même temps, qui n'a jamais rêvé de faire beaucoup d'argent? Mais comme avec bien d'autres toxicomanies, le besoin et le danger s'accroissent avec l'usage et l'accoutumance.
Finalement, plus on est riche, plus on peut perdre et plus on est fragile.
Et l'insécurité mène aussi à des comportements en plus dominateurs et contrôlants. On ne fait plus confiance à la vie, à la nature et à l'humanité.
Alors on essaie de tout contrôler. Les échéances de court terme sont devenues la règle, qu'il s'agisse d'échéances politiques ou d'obtention des dividendes.
Comme une course contre la montre, on essaie de conjurer la mort en consommant vite et tout de suite, comme un enfant qui ferait un caprice.
Pour terminer, pourquoi pas citer un livre, quand même, phare, qui s'appelle « La simplicité volontaire » de Serge Mongeau.
Dans ce livre, l'auteur nous encourage à nous demander quels sont nos véritables besoins et pourquoi on veut tellement consommer. En évitant les choix motivés par nos fausses carences et nos obsessions, on éviterait de devenir esclave de nos possessions et aussi de nos mauvais choix.
Un texte de Bob Eschenberger, repimpé par Aurélie Subercico.
Narration, Philippe Laramé et Aurélie Subercico.
Le mouvement altermondialiste regroupe divers acteurs qui, opposés à ce qu'ils appellent le mondialisme néolibéral, jugé injuste et dangereux, revendiquent la mise en place d'une autre mondialisation. Ce mouvement met en place des valeurs comme la démocratie, la justice économique et sociale, la protection de l'environnement et des droits humains. L'idée de base consiste à considérer que le processus de mondialisation économique, s'il n'est pas encadré politiquement, conduit à une augmentation des inégalités dans le monde. D'une part, entre la population mondiale la plus riche et la plus pauvre. Il est aussi lié à la justice et à la paix. Mettre en place un système international respecté de réglementation, de conflits et de prévention. Appliquer la Charte des droits de l'homme contre toute forme de discrimination, de sexisme et de racisme et condamner de manière égale les différents pays qui ne la respectent pas. Il est également lié au développement de la démocratie. Garantir le droit à l'information par des législations mettant fin à la concentration des médias dans des groupes de communicateurs géants et garantissant l'autonomie des journalistes par rapport aux actionnaires. Réformer et démocratiser en profondeur les organisations internationales, règles par le consensus de Washington, FMI, Banque mondiale et OMC, et faire prévaloir les droits humains, économiques, sociaux et culturels dans le prolongement de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Certains altermondialistes sont aussi préoccupés par l'effet de serre, OGM, la pollution qui est engendrée par l'activité industrielle ou encore les armes chimiques nucléaires. Dans un autre ordre d'idées, la plupart des tendances s'accordent sur un compromis que l'on retrouve aussi dans la tendance modérée, celle des réformateurs modérés qui sont partisans du libre-échange, mais souhaitent que le marché soit régulé selon des impératifs sociaux et environnementaux, par exemple, le principe de la souveraineté alimentaire.
En résumé, un autre monde est possible, mais il est dans celui-ci.
Citation de Paul Éluard.
Texte et narration de Marie-Claude Journeau.
En début de saison, Philippe rencontrait Stéphanie Boss du projet Interphase, situé à Lille en France, qui souhaite lancer une émission similaire à la nôtre dans son coin de pays. Cette rencontre fut enregistrée dans nos studios. On vous présente ici un compte-rendu pour vous donner les outils si vous aussi souhaitez lancer votre propre initiative, ou encore collaborer à la nôtre. Plus nous allons être de voix, plus nous allons résonner.
Hope, ça a été lancé en 2002.
Ah, 2003. Chiant.
Et au départ, c'était une revue. Donc, on a commencé avec une revue qui était périodicité variable. Donc, c'est habituellement une fois par saison, on lançait une revue qui était distribuée dans à peu près 300 points de distribution à travers le Québec. On a fait vraiment bord en bord, là, vraiment Montréal, Sherbrooke, Rimouski, on était un petit peu partout. Boutiques d'aliments naturels, les cafés, les boulangeries, on a comme vraiment créé un réseau parallèle de points de vente. Il y avait tout ce qu'on faisait dans Aube était original. On a comme publié 24 numéros de cette façon-là. Ça a survécu jusqu'en 2011-2012, mais bon, on est dans une crise des médias, donc on s'entend que l'aspect magazine est moins consommé peut-être d'aujourd'hui. Ça a pris, l'aspect du web a vraiment plus pris de... Donc tranquillement, on s'est rendu compte que la formule revue sans publicité, ça fonctionne plus ou moins bien. Fait qu'il aurait fallu tapisser ça de pub, transformer ça dans une logique marchande et tout. Fait que finalement, c'est ça, la revue, elle a tranquillement arrêté de fonctionner comme ça, papier, mais ça a continué à fonctionner sur le web. Donc, et l'émission de radio, on a fait de la radio en 2005. L'émission, elle a comme roulé pendant deux saisons. Ça s'appelait « À l'aube des délits de l'Est ». Et c'est ça, après ça, ben, on est... c'est ça, moi, je suis parti en région, j'ai été habité ailleurs au Québec. Et après ça, ben, je suis revenu ici en 2011. Et voilà, l'idée de repartir une émission de radio, d'adapter les textes, faire un peu ce qu'on faisait en 2005, réadapter ça avec un contexte plus moderne, est revenu. Et depuis le début de l'année, je m'implique à CIBL, je fais de la mise en onde, je m'implique dans d'autres émissions, je veux voir un peu la dynamique. Et c'est ça. On a comme ramené ça, puis là, ben, c'est ça, je me suis associé avec Guillaume Lambe, qui lui avait fait une émission qui s'appelait Vent de changement l'année passée, et Jean-Richard Lefebvre, qui était le directeur de programmation à CIBL, nous a mis en lien vers le temps des fêtes, puis à ce moment-là, ben, c'est ça, les deux, ça a cliqué, on s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes idées, puis Bref, on s'est associés depuis ce temps-là et on a commencé à produire des émissions comme ça. C'est d'inspirer les gens, c'est de leur montrer que finalement, il y a d'autres... On entend souvent parler des mauvaises nouvelles, on entend souvent parler des catastrophes, des problèmes, mais peu de gens vont vraiment se pencher sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui existe. Et dans notre émission de radio, c'est certain qu'on a un aspect radio-théâtre, on a des aspects création, des fois c'est de la poésie, mais donc on prend une thématique, comme là, par exemple, dans les dernières thématiques, on avait la rue, on avait les routes, on avait l'autre émission d'avant, c'était les médias, l'autre émission d'avant, c'était l'éducation, donc on a vraiment toujours des thématiques particulières, puis on essaie de donner d'autres angles de traitement à cette thématique-là. Ça peut être une fausse pub, ça peut être de l'humour, il y a toujours un petit quelque chose qui rajoute... un petit côté givré, donc c'est pas juste nutritif, c'est pas juste de l'information, c'est pas non plus du bourrage de crâne, on n'a pas la science infuse, mais on a dans d'autres angles, on essaie d'aller chercher des fois des héros du quotidien, des gens qui ont, je sais pas, des gens qui ont quelque chose, qui ont pas nécessairement la parole, qui ont pas nécessairement la parole des médias, mais qui ont quelque chose à dire, puis je pense que ça vaut la peine des fois de souligner, de le mettre en valeur. Nous, comme on dit dans chacune des émissions, dans les crédits, c'est que Aube est le fruit des collaborateurs du moment. Donc, chaque émission est vraiment variée, diversifiée. On a des gens qui reviennent régulièrement. À chaque émission, on entend leur voix, ils reviennent. Donc, présentement, on commence aussi à regarder pour les autres radios communautaires en France, dans la francophonie. Au départ, moi, je voulais partir pendant un mois en France pour aller faire des reportages et des entrevues sur le terrain. Donc, moi, je fais le tour de la France en vélo. Je me suis beaucoup promené en faisant du cyclotourisme. Donc, je voulais vraiment aller rencontrer des gens, aller faire des entrevues, des reportages. Mais je me suis dit aussi que, bon, ça serait peut-être bon que je commence par mon coin de pays. Il y a quand même plein de choses qui se passent au Québec. Fait que c'est certain que, par exemple, j'étais dans les Laurentides, j'étais visiter Terravie, qui est un organisme de conservation. Là, j'ai fait un reportage là-dessus. C'était extraordinaire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment trippant. On a passé un après-midi là-bas. Mais c'est un peu le même contexte. Avant d'aller à l'étranger, certains que je veux faire, mais certains que si des gens veulent collaborer d'ailleurs, nous envoyer,
okay.
On est vraiment ouvert à ça. Donc, d'avoir des bons outils, d'avoir une date de tombée, d'avoir des outils de communication, automatiquement, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as mis ça en place, les choses vont commencer à se remplir, les cases vont commencer à se remplir d'eux-mêmes. Il y a des outils de projets participatifs, par exemple, sur Google, il y a la possibilité de partager des documents Excel, donc la feuille de route, tu peux la voir à partir de ton ordinateur, tu peux voir aussi où est-ce qu'on est rendu, dans quelle thématique on est rendu. Il y a des listes de diffusion aussi qui sont disponibles, que tu peux, à toutes les semaines, moi j'envoie un courriel, pour donner un peu le feedback, où est-ce qu'on est rendu, c'est quoi la thématique, de quoi qu'on va parler, est-ce que les gens ont de quoi faire, est-ce que les gens ont le goût de parler de telle chose. Dans Aube, la revue, on avait quand même 400 articles de publiés, donc on peut déjà partir avec une bonne base de texte original qui s'est déjà publié, il y a juste une adaptation à faire. Donc, d'avoir une matière première, ça permet à quelqu'un qui veut participer, mais qui ne sait pas tout à fait dans quelle direction il veut aller, tu peux dire, ben écoute, t'as-tu le goût de faire l'adaptation de ça? Beaucoup de gens qui aiment ça faire ça. Sinon, après ça, ben c'est de regarder un peu, de ratisser, d'arriver avec des idées, de tout de suite les mettre dans les bonnes cases des feuilles de route. D'avoir des thématiques aussi, ça aide d'avoir, comme par exemple, on a 40 thématiques à venir. Donc, c'est ça, je pense, c'est d'avoir une certaine structure. Puis d'avoir des balises, de dire « OK, c'est à peu près ça qu'on a besoin ». Nous, on a établi aussi un concept d'émission. Donc, on sait qu'on veut à peu près un reportage, deux reportages. On veut une entrevue, on veut une capsule humoristique, on veut un réseau théâtre. On fait de la radio comme ça, directement chez moi. Fait qu'on prend un café, on prend un thé, on prend une bière. Puis là, ben, on s'amuse à faire de la radio. Une mini-enregistreuse permet d'amener la radio jusque dans des happenings, par exemple. S'il y a une soirée d'une galerie d'art, ben là, on est là. On est, tu sais, par exemple, lancement de telle affaire, une conférence de presse. Mais une mini-enregistreuse, c'est un compagnon idéal pour, c'est ça, amener la radio vers où est-ce que ça se passe.
Pour collaborer au projet Aube, vous pouvez nous écrire à coordination@commerciallaplumedefeu.com.
Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle ?
De la matrice.
Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité ? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit.
Sans clarté, il n'y a plus rien, rien que le vide. Nous sommes tous une part de cette clarté, à agencer le monde, à regarder passer le temps sous l'égide de notre volonté. Mais rapidement, si l'on n'y fait pas attention, tout s'échappe et la lumière que nous portions part bien vite, loin de nous. Le monde est une source de beauté, et nous nous devons d'y construire un avenir de bien pour les générations futures. C'est pourquoi nous devons fuir nos démons, acculer nos défauts et réduire nos aversions jusqu'à trouver en nous la part de clarté et l'éloigner le plus possible de l'ombre. D'autres seront des individualistes, des opposants farouches de la clarté, désuniront par de simples actes ce que des centaines d'années de science et d'intelligence ont mis à bâtir. Mais le vrai homme sera là pour mener sa tâche à bien au travers ces destructions innocentes. Pourquoi innocentes ? Car l'ombre agit pour elle-même et non avec une fin mauvaise. C'est cela sans doute la pire des choses. Voir s'ériger l'empire de l'ombre sous le couvert de l'élévation d'un seul. Plutôt élever la multitude que de vivre éveillé au sein de la nuit.
C'est ce qui conclut le 21e épisode de Aube.
Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com.
Si vous avez 2 secondes pour changer le monde avec nous, vous pouvez nous offrir vos rétroactions sur laplumedefeu.com, sur Twitter ou via Facebook.
N'oubliez pas, si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à participer à celle-ci en nous écrivant à coordination@laplumedefeu.com. Chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, de Guillaume Blanbre,
Aurélie Suberchicot, Marie-Claude Tardy, Jean-Baptiste Gardarin, Annie Schneider et Marie-Claude Journeau.
Suggestion musicale de Maurice Bolduc.
À la co-réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Blanbre.